Et les quelques enregistrements que tu as fait, tu disais que tu n'en avais pas beaucoup, tu les as gardés?
Oui, j'en ai quelques-uns.
Les moyens de les entendre?
Ah, alors là. On se fait un petit cadeau? Oh, nom de Dieu! Vas-y, Malulu!
Tandis?
Ouais.
T'as vu ça? Il se passe la même chose dans le film.
Ah, t'inquiète, c'est de la merde ce film.
Oh, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'important.
C'est quand t'as dit il est 9h, c'est ça? C'est ça qui est important? C'est vrai, remarque, 9h c'est assez important comme horaire, parce que c'est l'heure d'aller dormir.
Remarque, une fois, je me souviens, il était couché vers minuit 10. Pourtant, moi, j'étais fatigué.
Oh, j'y passerai des jours, des nuits, des mois, s'il le faut. Oh, mon Dieu, de bordel de merde. Oh, tu m'en tailles. Tu m'en fous. Oh, je suis fou. Oh, Tolstoy. Oh, ton cul, toi. C'est mon génie.
C'est une jolie paire de bottes que t'as là.
C'est Juan Fernandez qui me les a faites sur mesure à San Antonio. C'est un cuir très solide. J'ai eu toutes les peines du monde à lui faire mettre ce trou où il est. Ah, c'était un artiste, ce brave Juan, mais il n'a jamais pu comprendre les principes de la ventilation.
Je me souviens de Juan. D'après lui, une botte doit couvrir le pied.
Ancienne école.
Tu te souviens du docteur Franklin qui portait ses bottes avec des revers qui lui tombaient sur les orteils? Hein? Il les a fait à Boston. Cher docteur, tu sais ce qu'il est devenu?
Pareil qu'il est mort.
C'est exact. Cher docteur, il s'était battu toute sa vie pour que ce pays devienne enfin vivable. T'aurais pleuré de voir la foule à son enterrement. Eh oui, nous étions trois. Le pasteur, le fossoyeur et moi.
Eh bien, quand on m'enterrera, je me ficherai pas mal des gens qui seront venus aux funérailles.
Bon, c'était qu'une réflexion sur cette fleur qui pousse dans le cœur des hommes. La reconnaissance.
La seule reconnaissance que je demande est mon salaire, $20 par jour.
Et tu te contentes de ça?
Eh ben, je ne recevrai pas un sou de plus.
Tu crois?
J'en suis sûr, c'est ce qui est écrit sur mon contrat. Eh bien, allons-y, en route.
Bonjour et bienvenue, vous écoutez Le Cinéma est mort, l'émission nécrophile de Canal B, avec bien sûr le docteur Moreau. Bonjour Antoine.
Salut les kids.
Merci de nous accueillir dans les nouveaux studios de Canal B, à savoir ton salon, pour une émission consacrée à la littérature, hein, comme avant chaque été maintenant, c'est une tradition chez nous.
Même hein. S'il était déjà bien entamé.
Voilà, nos petits conseils lecture pour vos vacances, si vous avez la chance d'en avoir, et si c'est le cas, profitez-en, hein, ça va peut-être pas durer. On a fait une petite sélection quand même, on est resté sur 4 objets, histoire de ne pas partir dans tous les sens. Rapidement quand même, petite présentation, hein. On démarrera avec un très très beau, de toute façon c'est que des beaux livres, hein, que des beaux objets, mais un livre qui est sorti chez Capricci, Jean-François Thévenin, Le cinéma buissonnier, hein, les entretiens avec Romain Sublon, on va en parler tout de suite, et puis juste après on évoquera Golden 80s, la guerre entre Louis de Funès et Marguerite Duras n'aura pas lieu, de Nicolas Brevière chez Carlotta. Et puis on fera une deuxième partie, on verra le temps qui nous reste, hein, pour évoquer Sam Peckinpah, le rebelle mélancolique de Gérard Camus chez Institut Lumière Actes Sud, et puis la biographie de Paul Verhoeven par Rob Von Schiers chez les éditions des Forges de Vulcain.
C'est copieux, hein.
C'est
oh là
copieux,
là.
On va pas traîner et tout de suite justement en avant-bouche, on commence par le plus petit qui fait une centaine de pages pour ceux qui vraiment ont du mal à lire. Donc le livre consacré à Jean-François Thévenin, donc en effet ce sont des entretiens. Donc Romain Sublon pendant un an a fait, je crois si je dis pas de conneries, 4 entretiens en fait assez longs avec Thévenin, parfois dans sa cabane, dans son jardin.
À Meudon.
à Meudon, ouais. Quatre entretiens sur lesquels ils vont pouvoir revenir évidemment sur toute la carrière de Stevenin, sur ses influences, des histoires qu'il nous avait racontées, des histoires voilà qu'on peut connaître parfois, et puis parfois on va rentrer un peu plus dans le vif de certains sujets. On reviendra évidemment sur, enfin ils reviendront évidemment sur Lucette, hein, sur son amitié avec Lucette, sur des influences, sur la façon qu'il peut avoir de tourner. Je te laisserai la parole après, bien évidemment, Antonin. Ce qui m'a fait énormément plaisir, on n'avait pas évoqué, nous, c'était il y a 2 ans, je crois, à la sortie de Silésie 1970, qui était sortie chez Paul, si je ne dis pas de conneries, qui était un journal de bord que Stevenin avait tenu alors qu'il était assistant réalisateur sur un film en Allemagne, un film d'ailleurs qui est aujourd'hui un peu invisible. Où c'est lui-même qui avait commencé à retranscrire un petit peu son phrasé, puisqu'il s'est enregistré tous les soirs. Et c'est vrai qu'en lisant les entretiens de Rubens Sublon, ce qui fait le plaisir immédiatement, c'est de retrouver justement ce phrasé de Stevenin si particulier, qu'on entendra d'ailleurs tout à l'heure, qu'on a déjà entendu en pré-générique, et dont on ne se lasse pas, cette façon de parler assez particulière. C'est un peu en effet comme si l'écriture de Céline, dont il était fan, d'un coup se faisait audio un petit peu. Il a vraiment un phrasé qui est très identifié, et moi j'ai retrouvé tout de suite en lisant le bouquin le Stevenin qu'on avait pu entendre, quoi.
Ouais, c'est un vrai plaisir, parce que même avant qu'on ait eu la joie et enfin l'honneur de pouvoir le rencontrer lors de sa venue à Rennes pour une projection de Mishka, on avait fait une émission avec lui d'entretien. C'était quelqu'un dont on était un peu fan, non seulement pour les 3 films qu'il a pu réaliser,
qui sont
merveilleux, voilà, et c'est vrai qu'avant on était un petit peu à la chasse aussi de moindres entretiens qu'il pouvait faire, radiophoniques ou littéraires. Je me souviens aussi d'un texte qu'il avait rédigé, mais qui avait dû être rédigé aussi par un journaliste des Cahiers sur Cassavetes, mais qui était un texte dont l'auteur était un journaliste, mais qui retranscrivait sûrement l'oralité de Stevenin, en tout cas ce que le Stevenin lui avait raconté, mais qui était un texte merveilleux, hein, qu'on peut retrouver en tout cas sur notre Facebook, je crois. Qu'on avait fait une capture, mais le texte est génial. Mais il n'avait pas en tout cas l'oralité justement de Stevenin, qui est vraiment le truc qui, comme toi, moi, m'a frappé dès l'ouverture du bouquin, où moi, au bout de 2 pages, j'avais les larmes aux yeux, parce que c'est vraiment quelqu'un où tu te dis, tu te sentais, non pas que moi je me sentais proche de lui ni rien, mais en tout cas c'est quelqu'un qui m'a touché humainement dans ses films. Et aussi dans son rapport au cinéma, dans les entretiens qu'il faisait.
Qui a accompagné cette émission malgré lui.
Oui, carrément, où on a pu faire ça depuis longtemps, d'isoler des petites phrases, des petits propos de Stevenin sur différents sujets. Et il avait un rapport un peu à la fois à mi-chemin entre un truc très terrien et jouisseur de la vie et du cinéma, et à la fois un truc un peu... très idéaliste et très avec beaucoup d'ambition dans sa manière de vouloir faire du cinéma, de porter ça très très haut. Alors moi je trouve que le bouquin d'entretien est incroyable, hein, c'est vraiment évidemment
de choses sur une centaine de pages.
Oui, c'est fou. Après c'est souvent ça avec Stevenin, mais enfin ça n'enlève rien à la réussite du bouquin qui est incroyable, où effectivement ce pourquoi, enfin disons que le biscuit du bouquin, c'est vraiment son réservoir inépuisable d'anecdotes, où pour certaines on en connaît, mais on a l'impression que c'est inépuisable parce qu'il y en a encore des nouvelles, et puis dans la façon qu'il a de les raconter, elles sont incroyables. Des anecdotes avec Johnny, des anecdotes avec Depardieu, des anecdotes avec plein de gens plus ou moins connus, Alfonso, Bonner, qui sont incroyables. Et au cœur de tout ça, l'enjeu du bouquin, en tout cas de la part de son auteur, c'est aussi de le questionner sur pourquoi que 3 films ? Pourquoi que 3 films, quoi ? Et effectivement, c'est quelque chose qui...
Que Godard avait pu lui dire aussi.
Oui, ce que Godard pouvait lui dire. On avait d'ailleurs un super extrait qu'on aurait pu passer, hein, où Godard se fout de sa gueule en lui disant « Mais comment tu peux, toi, avoir fait un film comme Passe-Montagne, et puis au bout de 10 ans, t'as fait qu'un deuxième film, quoi ? » Tu dis « Mais comment ça se fait, quoi ?»
Et c'est pas ces problèmes d'écriture,
et c'est pas en tout cas uniquement
il essaye d'y répondre, hein,
oui il essaye d'y répondre, mais en même temps on sent bien qu'il y a une sorte d'impossibilité de, je sais, enfin, il y a un truc.
Il semble super pudique. Hein.
Il est pudique.
En fait, il a beau être comme ça un personnage public et raconter énormément de choses, il y a énormément de pudeur. Moi, c'est ce qui ressort aussi.
Oui. Il y a beaucoup de ça, mais on sent que il y a quelque chose. Il y a un paradoxe qui a pas été résolu au cours de sa vie, et c'est peut-être très bien parce que voilà, son œuvre est déjà avec juste 3 films largement supérieure à 90% des œuvres des grands cinéastes du monde. Voilà, il y a rien acheté, c'est super, mais on sent qu'il y a chez lui un truc de jouisseur, de procrastination, d'alcoolisme aussi. Il revient beaucoup là-dessus. C'est quelque chose sur lequel on l'entendait pas, en fait, vraiment, ce truc, bah voilà, il était alcoolique au sens propre du terme, quoi, voilà, et que forcément, bah, ça aide pas forcément à se mettre au travail ou à être vraiment très très productif. Et en même temps, bah, quand il le dit très bien, quand il est dans la concentration du fer et tout ça sur un tournage, bah oui, il y a un truc où, par contre, c'est de la minutie totale. C'est autant un film qui est un cinéma qui donne l'impression d'être un peu foutraque et d'englober tout le vivant, ou que tous les accidents du réel s'engouffrent dans le film.
Mais improvisé complètement.
Alors que c'est un truc d'écriture minutieux, de mise en scène très minutieux, et qui nécessite un travail de fou furieux. Et c'est vrai que tous ces paradoxes-là de quelqu'un qui est hyper travailleur, hyper exigeant, et en même temps hyper dans, bah voilà, bah moi je suis à Cannes, bah moi si on peut détourner un bus pour aller dans une fête, faire la fête avec je sais pas quoi, puis me rappeler le lendemain et être mal, et puis bouffer des œufs durs, et puis après bah retourner à une projection à 10h, et puis bah moi c'est cool parce que j'ai rencontré des tas de gens super, voilà. Bon, c'est le bouquin d'entretien est fantastique. Enfin, moi je l'ai pas lu d'une traite, mais c'est pas parce que voilà, je voulais pas le lire d'une traite.
Non, ça se déguste.
C'est parce qu'en fait, tu te dis, bah non, c'est assez court, autant le maintenir le plus longtemps possible. Mais c'est effectivement le bouquin à lire sur la plage, quoi.
Donc c'était le premier conseil conso, hein, Jean-François Stévenin, le cinéma buissonnier, entretien avec Romain Sublon chez Capricci. Et puis je rajouterais quand même, même s'il doit plus être disponible sur le site d'Arte, mais si vous avez la chance de foutre la main dessus, allez-y, un documentaire qui était sorti en 2020 de Laurent Achard, qui s'appelle Stévenin, simple monsieur, avec un dispositif un peu particulier, donc un documentaire qui avait été fait pour Arte, un portrait de Stévenin, justement.
C'est d'ailleurs dans la collection Cinéastes de notre temps.
Ah, je sais pas.
Je crois que oui.
Ah,
mais
ouais.
Cinéaste d'autre temps, pour ceux qui connaîtraient pas, c'est normalement.
Toujours.
Ben, en tout cas, c'est peut-être les derniers feux, mais pour ceux qui connaîtraient pas, Cinéaste de notre temps, c'est une collection très particulière. Il y a au moins 40 titres, mais c'est les cinéastes filment les cinéastes, quoi. Et il y a eu des grands trucs.
Laurent Achard, qui nous a quitté lui aussi, c'était il y a 2 ans.
Oui, qui s'est suicidé il y a pas longtemps. Et
qui a fait un super truc avec justement Stévenin. Et c'est vrai qu'il a foutu Stévenin dos à un miroir. Il y a un public devant Stévenin, il a foutu sa caméra dans l'axe de Stévenin, donc on voit pas la caméra, on voit Stévenin, on voit le public du coup dans son dos, dans le miroir, et Stévenin revient un petit peu pendant un peu moins d'une heure, je crois, sur justement toutes ses anecdotes, sa vie, ses amitiés. On va entendre un extrait justement tout à l'heure, et c'est encore une fois savoureux, de toute façon, comme toutes les interventions de Stévenin. C'est pour ça qu'on avait créé, il y a une quinzaine d'années, la minute nécessaire de Monsieur Stévenin. En tout cas, un premier conseil littéraire pour cet été, un bouquin qui prend pas beaucoup de place dans vos sacs, et c'est un vrai plaisir. On continue ?
Allez.
Et là, c'est le gros morceau, surtout pour toi. un pavé délicieux, un pavé important, que sort Carlotta. Golden 80s, la guerre entre Louis de Funès et Marguerite Duras n'aura pas lieu, de Nicolas Brévière. C'est un panorama de la production des films français de 1980 à 1989.
Bah oui, truc incroyable. Suicide commercial de la part de Carlotta. Je pense qu'il a dû s'en vendre à peu près 100 exemplaires.
Alors, il n'est pas au même prix non plus, hein,
non,
que le bouquin.
Il est très cher, mais ceci dit, faut toujours se méfier des trucs.
C'est
genre,
un investissement.
C'est très cher, et voilà. Mais en même temps, de toute façon, c'est le coût de ce bouquin. Point barre, c'est juste
travail,
Nicolas Brévière, qui est un producteur à la base, et qui, par passion et par érudition et tout, bah, s'est attelé à la tâche de faire le portrait économique du cinéma français sur l'intervalle de temps que tu as donné et d'un point de vue économique, culturel, politique et artistique. C'est une somme, hein, je ne sais plus combien de pages ça fait. C'est ce type de bouquin avec des reliures cartonnées puis avec un petit marque-page.
C'est 700 pages, 700 c'est écrit pages. Petit.
Voilà, je pense que ça vaut 80 balles, 70 balles, mais encore une fois.
Neuf, il est à 49. Hein, 49
ah, ouais,
non,
ça va. Ça va. Non,
c'est pas excessif par rapport en fait, c'est au pas, travail. C'est pas, ouais. c'est, encore une fois, c'est 10 ans de travail. Ouais. C'est un peu une mine d'or et c'est un travail qui était nécessaire et une lecture qui, je pense, pour tous ceux qui s'intéressent au cinéma, est importante aussi. En fait.
Oui, ouais, complètement. Ceux qui s'intéressent au cinéma, au cinéma français en particulier, mais aussi même ceux qui peut-être n'aiment pas le cinéma français, qui pourraient peut-être trouver du grain à moudre, parce que une de ses origines de l'envie d'écrire ce bouquin, c'est aussi lui en tant que producteur, son envie d'aller dans la producteur, c'est aussi son contact avec des producteurs un petit peu majestueux des années 70-80. Les noms vont m'échapper parce que je l'ai lu déjà il y a quelques mois.
C'est pareil. Mais voilà, et pourtant, il y a des super portraits.
Je pense à des gens comme Rassam, par exemple, qui sont très très connus, mais qui était aussi dans un système économique très particulier où l'argent qui était investi ne venait pas entièrement des télévisions ou du CNC, comme ça peut être le cas aujourd'hui, qui pouvait induire des politiques de production ou des personnages de producteurs un petit peu plus flamboyants, marchands de tapis, parieurs, joueurs, et parmi eux, des gens qui allaient vraiment investir sur des talents vraiment où c'était vraiment des vrais paris.
Oui, qu'il y avait un côté aventurier.
Complètement. Mais le bouquin est en même temps assez complet dans le sens où même si lui, on sent que l'origine de son envie, c'est vraiment de faire le portrait du cinéma français à travers le producteur. Et moi, ça, je trouve ça absolument fondamental. Et ça pourrait encore l'être fait aujourd'hui. Hein. On sent qu'il y a des producteurs où c'est intéressant vraiment de suivre, d'analyser une filmographie à travers leur production, quoi, de savoir qui va initier des projets et compagnie.
Et comment parce qu'ils ont tous les producteurs n'ont pas le même rapport.
Complètement. Et c'est vrai que à travers ça, c'est une vraie histoire du cinéma français, mais d'un point de vue politique et économique, j'ai envie de dire, parce que ça va être l'histoire des politiques culturelles du cinéma français pendant 20 ans et avec des moments majeurs, des tournants majeurs l'arrivée de Canal+, les gros enjeux, l'arrivée de la VHS,
beaucoup de
combats qui se sont faits.
L'arrivée de la gauche au pouvoir, déjà,
exactement,
80,
voilà.
L'arrivée de la VHS, l'arrivée de Canal+, des chaînes privées. C'est vrai que c'est une. Il se concentre sur une décennie qui, malgré tout, est importante. J'adorais avoir le même genre d'ouvrage pour la décennie précédente et la décennie suivante, en fait. On se dit que les années 70, c'était un espace de liberté totale et donc il y avait des choses... il y aura des choses extrêmement intéressantes à raconter. Et puis la décennie suivante, justement, avec tout ce qui s'est passé dans les années 80 et qu'il raconte dans son livre, justement, où on n'est pas trop dans l'émergence de nouveaux talents, mais c'est là que se mettent en place, en fait, tout un tas, en fait, de situations qui vont faire émerger justement ces nouveaux talents qui vont arriver dans les années 90, en fait, qui vont être pris en charge aussi par des producteurs ou par des chaînes d'Arte qui participera à tout ça ensuite. Mais c'est vrai que là, il y a un truc, un petit peu un noyau dur, en fait, dans cette décennie 80, alors même qu'elle est, elle propose pas forcément les meilleurs films de la filmographie française des 40 ou 50 dernières années, en fait. Mais là, c'est pareil, dans son ouvrage, le sous-titre le dit très bien, même si c'est pas de lui, c'est du rapport Brodin, si je dis pas de bêtises, un rapport qui avait été commandé par Jack Lang, du coup, sur justement c'est quoi la situation du cinéma, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse, et il y avait un rapport qui avait été fourni. Alors, moi, j'ai lu uniquement les extraits qui sont dans le livre de Nicolas Brevier, mais le rapport est assez fascinant dans les extraits qu'il propose, en tout cas. Et justement, voilà, on est capable de dans une même société de production et dans une même année, de proposer en effet un dernier Louis de Funès et puis un des écarts gigantesques.
Mais bien
sûr,
et c'est ça qui est hyper intéressant parce que c'est un des gros malentendus du cinéma français, qui est un cinéma qui est extrêmement, clivé, contrairement à beaucoup d'autres cinémas, et notamment celui qu'on peut connaître le plus, qui est nous en tout cas, et on n'est pas tout seul là-dessus, mais le cinéma américain, qui est un cinéma où effectivement on peut faire une barrière entre le cinéma hollywoodien de production courante et le cinéma indépendant américain. Mais en gros, le cinéma indépendant américain n'existe très peu. Il y avait évidemment une scène underground, il y a évidemment Cassavetes, il y a évidemment quelques exceptions à droite à gauche, Wiseman, d'autres cinéastes et tout ça, mais ils sont une poignée vraiment contre vraiment un cinéma qui est vraiment majoritaire. Le cinéma français, lui, est vraiment extrêmement d'un point de vue, le point de vue qui peut s'adosser au cinéma français, c'est souvent il y a le cinéma d'auteur d'un côté et puis l'autre truc, le cinéma commercial. Si on prend actuellement, il va y avoir la Comédie française et quelques grosses machineries orchestrées par Seydoux, qui genre du Monte Cristo, et puis à côté le cinéma d'auteur, d'art et essai et compagnie, quoi. Et c'est vrai que c'est un débat qui segmente vraiment le secteur depuis assez longtemps. On se rappelle par exemple que dans les années 2000, Pascal Ferrand avait fait tout un discours sur le film du milieu, réussissait vraiment à coïncider les deux. Mais en fait, cette expression de film du milieu, on se rend compte que c'est pas Pascal Ferrand qui l'a inventé. Il y a beaucoup été vraiment sur cette notion là de vouloir faire travailler des auteurs dans le centre du cinéma pour pouvoir vraiment créer des produits des films qui allaient vraiment pouvoir conquérir le public le plus large possible. Et c'est vrai que le point de vue économique est toujours intéressant là-dessus, particulièrement dans le cas du cinéma français, qui a un système très particulier qui fait que le moindre succès général de Monte Cristo va pouvoir, vu le système de redistribution sur lequel est basé le cinéma français, profiter un mec Bonello, on va dire, comme les gens les plus particuliers, comme Romer auparavant, parce que voilà, les caisses du CNC sont alimentées, plus le cinéma de façon générale fonctionne, plus on alimente les caisses pour que les premiers films puissent advenir et compagnie. Donc le point de vue économique, moi j'ai toujours envie de dire, c'est le meilleur à adopter pour parler du cinéma plutôt que d'un point de vue esthétique, en fait, quoi. De prime abord, c'est ça
à moins de faire de l'analyse et
c'est ça. C'est qu'en tout cas, pour comprendre un petit peu comment c'est toujours un petit peu
l'histoire du cinéma.
Si tu veux faire l'histoire du cinéma, et puis même si tu veux avant de promulguer n'importe quel truc, genre il faudrait qu'il y ait plus de films comme ça, ou ça, ces films là ça n'intéresse qu'une poignée, ou ces films là il y a que ces films majoritaire qui devrait exister. Voilà, il faut comprendre un petit peu cet écosystème général qui fait que si à un moment t'as Téchiné qui commence à faire un tout petit film qui marche pas du tout, au bout d'un moment il va faire un film avec Deneuve et machin qui va faire un million de spectateurs, et c'est parce qu'il a fait deux petits films qui ont fait rien du tout qui va pouvoir faire un film qui d'un coup est singulier et va faire un million de spectateurs. Je dis Téchiné, c'est pas le meilleur exemple parce que c'est pas très bankable de parler de Téchiné maintenant, mais parce que c'est le seul exemple c'est l'exemple qui me vient en tête maintenant, mais c'est toujours un truc très très régulier quand même dans le cinéma français. Et ce point de vue économique que Nicolas Brévière a, mais pas exclusivement, parce qu'il a aussi dans des portraits plus impressionniste aussi, et d'interviews de figures un petit peu
ou même des petites,
assez imparables,
ou même des petits segments sur le dernier plan d'un film par exemple, pour venir vraiment sur une œuvre marquante. Donc c'est année par année sur la décennie, donc il y a 9 chapitres, 10 grosso modo, et il revient à chaque fois sur un film aussi. Je te laisse la parole, mais j'en profite d'avoir le micro pour dire deux choses qui quand même moi me paraissent un peu importantes quand même. La première, c'est en effet qu'il revient sur tout un tas de bouleversements qui ont eu lieu pendant la décennie. Et moi, ça m'a ramené à énormément de choses qu'on peut dire depuis bientôt 20 ans dans cette émission sur l'économie, évidemment, sur les inégalités peut-être entre les films. Et en écrivant et en prenant vraiment des chiffres aussi, d'ailleurs, à l'appui pour écrire ce livre, il nous montre bien que c'est pas nouveau, en fait, tous les problèmes qu'on peut rencontrer aujourd'hui, en fait, et les inquiétudes qu'on peut avoir quand on travaille dans le cinéma via l'arrivée de Netflix ou des plateformes ou autre. autre chose. En fait, c'est des inquiétudes qui sont là depuis un peu toujours. Et comme il le dit dès le début dans son bouquin, le cinéma est en crise depuis sa création.
Ouais.
De toute façon, les gens ont beau dire le cinéma est mort, le cinéma est en crise, c'est le cas depuis sa création. Et là, dans les années début 80, en effet, avec l'arrivée de la VHS, le piratage, avec tout un tas de bouleversements qui ont lieu, l'arrivée des chaînes payantes, du cinéma partout à la télé, évidemment, voilà, c'est des mêmes inquiétudes qu'il peut y avoir. Ce qui n'empêche pas qu'il faut se bouger les fesses et sortir les doigts hein, pour offrir.
C'est pour ça que c'est un combat politique et économique, voilà. Principalement politique.
C'est ça. C'est important. Et donc
c'est aussi un truc de syndicat, de producteurs, de syndicat de réalisateurs qui luttent pour et qui est encore un combat qui a lieu aujourd'hui ou voilà, qui est hyper important.
Voilà, mais qui aura toujours lieu. C'est un combat permanent et ça sera toujours un combat. Et qu'il faut garder ça en tête. Il n'empêche que, évidemment, c'est un travail important qu'il fournit et de revenir sur c'est quoi les combats. Il ne faut pas l'oublier. Ça, c'était la première chose. La deuxième, c'est en lisant cet ouvrage, de se rappeler aussi qu'on a été particulièrement nuls, tous en France en fait, pour faire l'histoire du cinéma français, alors même qu'on a tout un tas d'écrivains et nous-mêmes d'ailleurs, qui sont capables de se faire l'histoire du cinéma américain sur le bout des doigts, de chaque date, chaque moment clé. En fait, le cinéma français, lui, il est passé complètement à la trappe.
Ouais. Ouais, c'est un truc de fou ça, mais ça c'est vraiment un truc moi qui me fascine hein, moi j'ai autant d'amour par exemple pour un certain cinéma de la nouvelle vague, j'aime pas tout à égale mesure hein, je passe complètement à côté de Godard voilà, mais j'aime aussi le cinéma populaire français majoritaire de Verneuil, à certains trucs dont on a pu parler à ce micro ou qu'on a l'impression de redécouvrir mais qui étaient pourtant des cinéastes qui faisaient des entrées genre Seria, Gessoua et compagnie, mais un bouquin d'histoire du cinéma français qui traite non pas sur un pied d'égalité, il s'agit pas de dire que voilà Rivette est l'égal de Gessoua, non, Rivette est peut-être au-dessus évidemment, mais qui arrive à l'inscrire dans une même histoire et non pas comme des routes parallèles qui ne se croiseraient jamais, c'est absolument faux. Justement, quand tu t'intéresses justement à l'histoire de la production, les producteurs des fois étaient communs. Ils allaient Claude Berry était assez réputé pour ça. Claude Berry, il faisait autant Manon des Sources, des gros machins, que jadis il produisait Piala, que Rassam, c'est exemplaire là-dessus. Il allait produire du Ferreri autant que des truc vachement plus majoritaire. Il y a toute une sorte de d'écosystème au sens propre, c'est-à-dire un réseau d'interconnexions fondamentales dont l'histoire n'a jamais été créée parce que il y a justement cette sorte de fantasme qu'il y a deux histoires parallèles. Il y a une histoire d'un cinéma populaire majoritaire que certains turés fiers un peu geeks vont dire voilà, ça c'était le vrai cinéma, c'était le cinéma de papa, c'était Belmondo, ça c'était super.
Mais même avant ça, Duvivier, Claude Autant-Lara, Verneuil, voilà,
on
peut remonter
loin. Il y a eu ce moment
loin,
de césure, voilà, probablement qui date de la Nouvelle Vague où justement eux se sont formés justement sur l'idée que le cinéma auparavant de production majoritaire était un cinéma nul, qu'ils ont créé une nouvelle veine là-dessus, mais à partir de là il y a eu tout un courant critique et historiographique qui a fait que on a considéré que complètement ça. Il y a des écrits, beaucoup, il y a beaucoup de bouquins sur Audiard, il y a quelques bouquins sur Verneuil, il y a des bouquins sur des différents acteurs par exemple, mais à aucun moment un ouvrage généraliste pourrait se dire il faut envisager ce truc dans une globalité. Le cinéma français, c'est aussi bien Le Splendide que Garrel, que Stache, que voilà.
Que Truffaut justement en 80-81, il est au top du box-office.
Bien sûr,
c'est la femme d'à côté.
C'est d'autant plus étonnant que quand on sait que le cinéma, la Nouvelle Vague, par exemple, c'était vachement basé sur la valorisation totale du cinéma américain, qui est un cinéma qui est absolument un peu étranger à cette dichotomie-là, parce que justement dans le cinéma américain la marge est absorbée par la page, quoi. C'est-à-dire d'être dans un cinéma qui se voulait un peu majoritaire, en tout cas destination de tout le monde, mais le cinéma français c'est quand même plutôt construit dans une sorte de, il y a une marge, bah, qui doit, ou c'est le singulier, c'est le cinéma d'auteur. Mais bon, moi, j'adore toujours cette citation de Godard qui disait, bah oui, c'est la marge qui tient la page. S'il n'y a plus de marge, bah, la page elle s'effondre, elle ne tient plus. Mais il n'empêche que cette citation-là, elle marque quand même une sorte de dichotomie complètement. Mais ce bouquin-là, en tout cas, fait complètement le lien, ne serait-ce que par son sous-titre, en disant, bah non, la guerre, elle n'a pas lieu. En fait, c'est toujours important en termes politiques d'avoir cette envie-là de défendre la singularité contre le conformisme d'une production un petit peu... voilà. Mais ceci dit, de toute façon, économiquement et politiquement, il s'agit de faire tenir les deux ensemble complètement. C'est un truc très majoritaire et un truc très singulier.
Et puis, donc, pour tous ceux qui sont un peu curieux, au-delà d'une simple histoire économique du cinéma sur une décennie, il est construit, comme je disais, par année. Hein, il fallait qu'il évoque énormément de sujets et entre guillemets de points de vue. Donc on a affaire aussi à des présentations un petit peu de tous les gens qui bossent pour cette économie. Donc ça va être à la fois évidemment des portraits de producteurs, mais on a aussi tout un chapitre sur les exploitants. C'est quoi être exploitant, distributeur, enfin tous les métiers justement qui font fonctionner cette économie en fait à un moment, et puis les changements qu'ils observent. Une petite histoire de d'où ça vient, tu vois, c'est par exemple une petite histoire de c'est quoi le premier distributeur en France dans les années 20 grosso modo. Et voilà, c'est donc il y a une richesse aussi en termes d'information qui est assez précieuse et qui fait que, en effet, ce bouquin-là, il va rester un petit peu.
Ouais, ouais, carrément.
Vous pouvez l'avoir dans votre bibli. Il est utile.
Oui, il est complètement utile aujourd'hui. C'est vraiment une référence. Et puis, effectivement, comme tu l'as dit aussi, c'est assez dingue à quel point les problèmes identifiés il y a 20 ans ne sont pas les mêmes. Mais en tout cas, à mettre en jeu des forces en présence qui sont toujours les mêmes sur des sujets relativement voisins. Donc en fait, il y a vraiment... Ça garde une actualité brûlante à chaque fois. On sent que c'est une lutte permanente sur des enjeux qui sont toujours à peu près les mêmes, quoi.
Je rappelle Golden 80s, donc c'était le titre d'un film d'ailleurs de Chantal Ackerman, une comédie musicale de Chantal Ackerman.
J'ai trouvé atroce d'ailleurs.
Ça colle bien. La guerre entre Louis de Funès et Marguerite Duras n'aura pas lieu. Panorama de la production des films français 1980-89. Nicolas Brévière chez Carlotta. Allez-y, c'est de la bonne. On fait une courte pause avec justement du Stevenin dont on parlait il n'y a pas si longtemps que ça. Et on se retrouve juste après pour parler Sam Peckinpah notamment.
On va voir projection d'équipe. Les mecs me disent tous, ben là tu coupes les claps, hein, c'est tout, c'est monté. Hein. C'est vrai, ça fait 3h20. Impeccable. Bon. Et là, avec mon copain Yann Dedet, après avec Emmanuel Castro, mais Yann Dedet surtout, on se dit non, là on va commencer à casser les trucs. Parce que moi je fais que des plans séquences parce que j'ai pas d'argent. J'adore les plans séquences, vous savez tout ce que c'est que les plans séquences. Hein? Alors, parce que c'est très long à mettre au point, pendant que ça se met en route, on peut parler aux acteurs, à l'accessoiriste, au décorateur, à ci, à dit, à ça, et après la première prise, il pulse à fond, parce que t'as pas une bande de techniciens qui ont qu'une envie, c'est de les manger, qui te regardent jouer. Tout le monde joue. Et moi, j'ai ce truc, autant je suis maladroit dans la vie complètement, autant s'il y a une caméra, je commence à être assez adroit. Et j'ai ce truc, je ne sais pas pourquoi, en jouant, je vois que la caméra va passer sur une cale sifflet, que Tarving va trembler. Je sais pas pourquoi, mais je le sens. Mais alors,
tu es bien bientôt.
Mais complètement, je le sens fort. Hein. Alors après, avec Yann, on commence à dire, bon, ça, c'est un moment formidable et tout, c'est une nuit de tournage extraordinaire, il faisait moins 40, Carole Bouquet était ivre morte, moi aussi, ok, bon. Ça, bizarrement, ça raconte rien, là, au milieu. On tape dedans. Alors là, tu touches une carte, c'est comme un château de cartes. Un Mikado. Non, plus exactement, un Mikado. T'enlèves ça, oh merde. Ah, là, faut rattraper le truc. Et là, ben, ça raconte plus rien. Et là, faut ça. Et j'avais eu ça sur Pat Fontaine, je me rappelle, il y avait un plan... pas d'idée. Pour une fois, pas d'idée. Parce que moi, pas de repérage, sauf très, repérage très précis sur le son, la lumière et tout, comment ça va être. Le matin du tournage, aucun truc. Alors j'avais un truc, moi je m'arrêtais en voiture et j'allais faire caca dans les bois. Et là je me dis, bon, on va faire ça, ça. Tu vois, c'est un truc du bizarre. Et hop, j'arrivais, on disait, on fait ça. Hyper préparé. Après, le temps qu'ils mettent tout ça en route, ça prenait un temps fou. Et après, la première prise, t'as le jus. Et moi, je suis un acteur de première prise. Souvent par trac aussi. Quand je tournais avec François Truffaut, je me disais, tu t'en débarrasses, quoi. Puis le gros Depardieu qui me disait, mais dis donc les mots, dis les mots, oh, dis les mots.
À l'instant, vous avez pu entendre un extrait de ce documentaire donc, que nous évoquions tout à l'heure, hein. Stévenin, Simples Messieurs de Laurent Achard, qui avait été diffusé sur Arte, recouvert par cette musique magnifique, la Golondrina, extrait de la bande originale de La Horde Sauvage de Sam Peckinpah. C'est pas un morceau de Jerry Fielding, hein, c'est un morceau traditionnel qu'ils avaient enregistré, hop hop, parce qu'ils avaient vu des gens le jouer, ils trouvaient ça super. On va y revenir juste après qu'Antonin évoque cette biographie de Paul Verhoeven qui sort chez les Forges de Vulcain. Qui avait déjà sorti ce merveilleux bouquin qu'on avait évoqué il y a 10 ans, hein, pas loin.
The Story Jésus of de Jesus.
Nazareth. Ouais. Jésus de Nazareth, qui était coécrit par le même monsieur qui fait la biographie, si j'ai bien compris d'ailleurs.
D'accord, peut-être, ouais, ça je ne me suis pas renseigné assez.
Je conseille le Jésus de Nazareth en tout cas.
Que je n'ai pas lu, mais qui trône fièrement dans ma cinémathèque, parce que je suis très content d'avoir un bouquin sur Jésus. Dans
je reviens vite là-dessus quand même. Paul Verhoeven, quand il est arrivé aux États-Unis dans les années 80, il se met tout de suite en tête de faire un film grosso modo sur Jésus-Christ, mais sans magie, sans effets spéciaux, sans machin. Et donc, il va faire tout un tas de colloques et de réunions et d'organisations avec des gens, des théologistes dont c'est le travail de faire la part des choses.
Ouais.
Et donc le bouquin est merveilleux parce qu'il fait la bio de Jésus-Christ chez Guevara.
Oui. En fait, la bio revient un peu là-dessus, à quel point il a pu être un peu accepté assez vite dans des cercles assez érudits et puis d'universitaires, hein, parce que c'est vraiment des historiens. Parce que les gens en fait voyaient très bien à quel point, même en regardant Robocop, on pouvait voir que le gars était assez travaillé par cette histoire-là, parce que Robocop, c'est quand même l'histoire d'un mec qui meurt, qui renaît. Et qui restaure la justice, et c'est vraiment une relecture aussi de Jésus-Christ. Et le bouquin, de toute façon, est passionnant, de toute façon, parce que la vie de Verhoeven est assez passionnante de toute manière. On est un peu revenu là-dessus, parce qu'il a le mérite aussi de remettre des trucs au point, parce que les légendes autour de Verhoeven sont assez fortes aussi, hein. L'idée que le mec se fait d'abord virer de Hollande parce que il fait des films insupportable du style Spetters. Moi, je sais que l'histoire que je trouvais géniale, c'est que Le Choix du Destin est un film qui marche tellement en Hollande que même aux États-Unis, ils se disent putain, le film de guerre là, c'est bien troussé. Spielberg le regarde, s'est dit c'est génial, Soldier of Orange. Se dit c'est super, il faut le faire venir. Limite, il est pressenti pour réaliser le retour du Jedi, me semble-t-il.
Et tout le monde a été pressenti pour faire le retour du Jedi.
Il y a eu Cronenberg,
David
et
Lynch,
tout ça.
Aussi.
David Lynch, mais peut-être en tout cas tous les grands noms en tout cas du cinéma des années 80-90
personne voulait le
ont
faire.
Été pressentis et en gros de toute façon ça c'est assez le fait que George Lucas ait choisi Richard Marquand c'est peut-être pas non plus un hasard hein, c'est que le bon mot de Verhoeven mais là qui est pour l'instant enfin qui est avéré hein, c'est que en gros au bout d'un moment Spielberg voit Soldier of Orange, dit c'est super, et puis après il voit Spetters, il se dit ça va pas le faire, George Lucas, non tu retires ton offre, les Ewoks qui vont s'enculer au bout de 20 minutes, ça va pas le faire du tout quoi. Et ça c'est la blague que sortait Verhoeven, il disait je sais pas pourquoi j'ai pas été retenu, mais peut-être qu'ils avaient peur de ça. En tout cas, le trajet de Verhoeven est absolument fantastique sur plein d'aspects, parce qu'effectivement, il vient d'un pays où le cinéma a vraiment une industrie très, très nulle, hein, on va dire, il y a quasiment rien.
Ça se compte sur les doigts de la main, les
films. Ça se compte sur les doigts d'une main, et lui, clairement, il arrive, il est quasiment tout seul, il fait des films qui font à chaque fois un petit peu scandale, et en fait, parce que le bouquin te remet en perspective mes choses que j'aurais pu faire peut-être par moi-même, c'est que tu dis c'est quand même, en fait Verhoeven est très très vieux en fait quoi, quand il arrive aux États-Unis il a déjà plus de 40 ans, et c'est que tu dis il a déjà 6 films à son actif plus des courts-métrages et compagnie, donc il a déjà toute une vie derrière lui de films en Hollande qui sont des gros succès de public hein, notamment Turkish Delight qui a un énorme succès, je crois que c'est toujours le plus gros succès du cinéma en Hollande, hein. Il a fait 3 millions, quelque chose comme ça, mais évidemment c'est dans une année où La Grande Bouffe faisait aussi 3 millions, que La Maman et la Putain faisait aussi 1 million, c'est l'année où le public est hyper réceptif à voir ce genre de truc qui va bouscule complètement les idées reçues, qui peut être assez agressif sexuellement au niveau de la violence, au niveau des mœurs, qui est agressif partout, mais c'est ce que les gens veulent voir, le public majoritairement veut voir ça à cette époque-là. Et puis toute la période de la américaine qui est effectivement est hyper importante pour nous, parce que moi je sais que personnellement, et je pense que c'est ton cas aussi, faut vraiment avoir 10 ans de plus, enfin on est tous marqués par Robocop, tous marqués par Starship Troopers, et les films hollandais on les découvre Basic Instinct, mais les films hollandais, la carrière hollandaise on les découvre bien après, le coffret d'ailleurs qui était sorti par Metropolitan est légendaire, parce qu'il vaut très très cher, et ces films là ne sont toujours pas ressortis. Spetter c'est ressorti
avec des très beaux bonus, le coffret est super.
Et le coffret est super.
Dessus.
On aimerait bien que ça ressorte même en HD, que ça soit de nouveau disponible.
Le quatrième homme, des choses comme ça.
Et c'est d'ailleurs, je pense, une des raisons pour laquelle le film ne ressort pas, c'est qu'ils appartiennent à un producteur dont le nom m'échappe là, à l'instant, mais c'est un truc comme Rob Delau ou un truc comme ça à la hollandaise, mais sur lequel le bouquin revient beaucoup, une sorte de producteur un peu marchand de tapis qui officie entre l'Allemagne et la Norvège et qui est le premier producteur historique de Verhoeven, et avec lequel il y a eu vraiment des relations de tension très très fortes qui préfigurent peut-être un petit peu celle qu'il va connaître à Hollywood plus tard, mais en tout cas le catalogue doit lui appartenir, d'où peut-être l'idée que ces films-là ne sont pas très dispo, ne puissent pas sortir d'un claquement de doigts comme ça en ce moment. Et évidemment on est toujours curieux. Il y a beaucoup d'histoires sur Verhoeven, il y a beaucoup d'écrits, donc on s'est beaucoup renseigné parce qu'on, à chaque fois, quand tu aimes le cinéma de Verhoeven, tu dis comment ça peut être produit, ces trucs-là.
Il y avait déjà eu des livres d'entretien qui étaient sortis.
Oui, bien sûr. Il y a eu quelques livres d'entretien. Le premier, c'est Rouge Profond qu'il avait sorti. Il y en a eu un deuxième dernièrement chez Capricci, notamment, mené par Burdeau et Hervé Aubron, de mémoire, où les histoires sont fantastiques. Le mec est passionnant parce qu'effectivement, là où c'est génial, c'est que c'est sûrement un des derniers grands cas de cinéaste étranger qui fait une carrière mirobolante aux États-Unis et qui vient apporter dans un cadre hyper commercial de films comme Total Recall Starship Troopers et Robocop une grammaire pas la grammaire parce que la grammaire est très disons américano-soluble, c'est-à-dire que c'est vraiment une grammaire qui, lui, en étant très cinéphile et un pur génie de la mise en scène, très capable de toujours intégrer ce qu'il a vu auparavant et voilà d'arriver à faire une grammaire
de fou. Faut voir les commentaires, faut écouter les commentaires.
Oui. Le mec, c'est un pur génie. Voilà. Et ça, tout le monde dit, il est capable de te ressortir des trucs. Il a une analyse quasiment malade du réel pour pouvoir le reconfigurer et le transformer en mise en scène hyper limpide. Mais par contre, en termes de thématiques et de mœurs et tout ça, effectivement, nous, je sais que moi, mon premier rapport à Verhoeven, et qui restera de façon identique, c'est que tu dis, mais comment on peut balancer un truc comme ça, ni vu ni connu, à la tronche d'Hollywood? Ça va presque au-delà, alors que tout Hollywood est basé là-dessus, hein, évidemment. C'est pas le premier cinéaste étranger à avoir fait une grosse carrière là-dessus. Mais c'est vrai que bon, moi, je sais que le chapitre qui m'intéressait particulièrement, c'est celui sur Starship Troopers, moi, qui m'a halluciné à chaque fois. Et Verhoeven dit, le dit volontiers, il y a vraiment beaucoup de chance. Hein, c'est-à-dire que c'était un moment où le studio était en rachat et c'était très, très compliqué. Et qu'il y a eu plein de producteurs à la tête du studio qui se sont succédés. Et donc, du coup, ils avaient autre chose à foutre de s'inquiéter de ce qui se passait sur un plateau d'un blockbuster de science-fiction avec une bataille entre des extraterrestres et des troupes. Ils disaient, de toute façon, ça roule. Donc, ils ont fait ce qu'ils voulaient, quoi. Et ça arrive à un truc aberrant où tu dis, mais comment c'est possible? Et la bio est super et revient aussi beaucoup sur ce truc très étrange qu'il y a chez lui, d'un rapport très fort au sacré transcendantal, quelque chose qui serait vraiment de l'ordre de la transcendance et le rapport très terrien de Verhoeven, très organique, très, on va dire, pas cynique, mais vraiment quelque chose qui serait de l'ordre de, c'est cru, voilà. Et en même temps, une sorte de croyance au sacré. Et c'est une lecture imparable.
La biographie de Paul Verhoeven par Rob Von Schiers chez les éditions des Forges de Vulcain. Rapidement, pour terminer cette émission, la bio, elle, de Sam Peckinpah chez Institut Lumière Actes Sud par Gérard Camille, le rebelle mélancolique, donc Sam Peckinpah. Gérard Camille qui avait été l'un des premiers à écrire sur Peckinpah en France. C'était il y a une petite vingtaine d'années. Moi, je me rappelle, c'est l'un des seuls bouquins que j'avais pu choper sur le bonhomme. Et c'était chez L'Harmattan, je crois. Donc, vraiment pas un truc funky. C'est vraiment...
L'Harmattan, c'est jamais funky.
C'était costaud. Et c'est vrai que depuis, moi, je suis un grand fan de Peckinpah. J'étais chopé un peu tous les bouquins qui sortaient. Que ce soit chez c'est Capricci qui avait sorti aussi un bouquin. J'avais pas aimé du tout ce qu'il racontait. Et pourtant, il y avait des gens comme Burdeau dedans qui écrivaient. Hein. Je me rappelle de son texte sur les chiens de paille. J'ai dit, c'est pas possible, t'as pas vu le film. Séguier avait sorti un petit truc. On a eu des objets un peu sur Peckinpah, mais rien de satisfaisant en ce qui me concernait. Et c'est vrai que là, j'ai été bien rassasié. Ça m'a fait plaisir. Parce que je pense que comme beaucoup de gens, j'en sais rien, j'en ai pas assez parlé, mais pour moi, Peckinpah, d'un point de vue biographique, entre guillemets, et dans les écrits que j'avais pu... On avait l'image d'un... On a ces films en tête, il n'y a pas de problème, on connaît ces films, ils sont merveilleux, ça, machin. Mais le personnage, tu dis, c'est un alcoolique, qui se prend le chou avec tous ses producteurs, on y revient encore, et c'est vrai que ça prend de la place un petit peu dans le bouquin, mais c'est vraiment intéressant. Mais moi, je me posais quand même les questions de, mais comment est-ce qu'il en arrive, du coup, alors que c'est un alcoolique qui est tout le temps en colère et qui vire tout le monde sur les tournages, comment il en arrive à faire ces films-là, quoi, esthétiquement, en termes de théorie du montage, par exemple, qui est folle, qu'est-ce qui s'est passé, quoi. Et enfin, ce bouquin-là, pour moi, offre des pistes vraiment à ça, y compris du coup l'intérêt biographique est vraiment là, que ça soit sur l'histoire de sa famille, ses grands-parents, les pionniers qui ont une montagne à leur nom quand même, la montagne Peckinpah dans le Montana, je crois, sa jeunesse et sa découverte du théâtre, de la mise en scène, de la direction d'acteur, la façon qu'il va avoir de travailler après pendant toute sa carrière, justement avec beaucoup de répétitions, ce qui fait penser au travail que fait Ciné Lumette par exemple. Et justement, ils vont pas travailler ensemble, même pas se croiser d'ailleurs, mais ils ont la même carrière, début de carrière à la télévision par exemple, et un vrai travail à la télévision où ils vont pouvoir vraiment faire leurs armes et travailler sur la mise en scène en direct et le jeu des acteurs, et puis bouleverser un petit peu certaines conventions avant d'arriver vraiment au cinéma. Et les batailles qu'il va mener pour faire ce qu'il avait envie de faire, là c'est pareil, tu dis bon bah tu comprends sur les séquences de violence par exemple, qu'en effet au moment de la Horde sauvage par exemple ça pose problème, mais finalement c'est même pas ça qui pose problème, c'est pas ça qui est coupé dans ces films par les producteurs, c'est les séquences de dialogue, c'est les séquences
où il se passe rien, ils sont autour d'un feu,
typiquement c'est des rapports hommes-femmes, des discussions entre hommes et femmes qui sont pas problématiques, au contraire, tu vois, c'est dans Pat Garrett et Be the Kid, c'est quand Pat Garrett au départ retrouve sa femme et puis en fait bah non, leur couple va pas bien et il s'en va, bah ça c'est coupé du montage de Pat Garrett. L'intérêt aussi de, enfin, ce qui fait ressortir en tout cas Gérard Camus de sa biographie, t'as parfois l'impression qu'il essaye de survendre l'importance de l'histoire personnelle de Peckinpah pour vendre son bouquin, mais je pense qu'il a raison malgré tout. Il fait vraiment revenir en avant le fait que dans ses films, il a évoqué constamment en fait ce que lui vivait au quotidien. Que ce soit son alcoolisme, les problèmes qu'il a avec les femmes, c'était un homme violent qui battait toutes les femmes avec qui il a été. Et là, on ne fait pas l'impasse sur le fait que bah, ce type aurait dû être en taule, en fait, quoi. Il tapait sur toutes ses femmes, quoi. Ça a beau être un génie du cinéma, c'était un monstre, en fait, et un type invivable. Et voilà, il était violent, alcoolique, violent. Et l'alcool n'excuse pas rien, en fait. Surtout quand... Donc voilà, il est capable vraiment d'évoquer tout ça et d'évoquer aussi quand même justement ce qu'il a pu apporter au montage dans le cinéma, et c'était quoi ses influences, Kurosawa bien évidemment, mais pas que. Donc on revient un peu sur tout ça, sur les films qu'il a pu découvrir assez jeune aussi, que ce soit Ford ou Wellman, tous ces objets là qui ont façonné vraiment son cinéma. Et puis, en effet, on revient encore là-dessus, ces batailles avec les producteurs, alors même qu'il est tombé parfois sur des producteurs, Feldman par exemple, qui l'a aidé à faire La Horde sauvage, et La Horde sauvage qui correspond au film qu'il voulait faire. Il a été coupé un petit peu aux États-Unis. En France, La Horde sauvage, on l'a vu comme Peckinpah voulait qu'on le voit. Y a vraiment deux moments terribles, c'est Major Dundee et puis Pat Garrett, où là, pour le coup, on supprimait des choses. En plus, c'était pas de la violence qu'on lui coupait, en fait, c'était vraiment des moments où il essayait de rapporter un peu de gris, un peu de personnalité. C'était des histoires de personnages en fait qui étaient chuintés de son film. Ça a été terrible. Donc le bouquin, même si au bout d'un moment la construction en elle-même via la répétition, parce qu'on évoque du coup l'écriture, et c'est un scénariste, hein, c'est un très grand scénariste, Peckinpah, il retravaille tous ses scénarios, même s'il est incapable d'écrire, donc il faut qu'il s'enregistre, parce que sinon personne n'est capable de relire ce qu'il écrit, et puis il est incapable de taper à la machine. Mais voilà, l'écriture, la production, le tournage, la sortie, donc pour chacun de ces films, on revient vers ces étapes-là, et puis un petit peu d'analyse quand même pour revenir justement sur c'est quoi l'évolution dans son film, c'est quoi le rapport avec sa vie personnelle, c'est quoi aussi le rapport avec le monde au moment où ça sort le film. Mais il y a suffisamment d'informations et c'est suffisamment riche pour que moi j'ai enfin été contenté. Et voilà, j'attends pas une nouvelle biographie de Peckinpah. Celle-ci, en tout cas, me convient. Et puis c'est un page-turner. C'est 900 pages quand même. Je les ai bouffées comme c'est pas permis. J'étais à fond dedans. J'ai fait chier tout le monde avec Peckinpah pendant les deux semaines où j'ai lu le bouquin parce que j'étais à fond dedans. Et je me suis permis juste de revoir Coup de feu dans la Sierra pour l'occasion et de me dire mais c'est complètement dingue ce film en fait que j'ai toujours associé tout simplement à Peckinpah et je le mettais en dessous de La Horde Sauvage par exemple ou d'autres westerns qu'il avait fait plus tard. Sauf qu'en fait c'est début 60 et ce film-là est complètement dingue par rapport à la période où c'est sorti. Où le western est en berne et lui il propose un film qui faut le voir faut pas penser à ce qu'il fera après, mais là par rapport à cette époque là et ce film là il est exceptionnel, magnifique, et ce que ça raconte c'est fou en fait. Il est voilà, et constamment en fait il a réussi à faire ça, et c'est ça que le bouquin m'a permis de revoir aussi. C'est que moi j'ai toujours envisagé Peckinpah comme un truc à part du cinéma, mais là ça le ramène quand même un petit peu aussi dans la production contemporaine et dans ce qui se faisait à ce moment là et là tu dis ouais en effet c'est un machin encore plus exceptionnel que ce que j'avais en tête finalement quoi. Donc je conseille quand même, même si ça vous intéresse pas trop, ça se vraiment c'est romanesque, il a une vie romanesque de toute façon Peckinpah. Donc le ça Peckinpah, le rebelle mélancolique de Gérard Camus chez l'Institut Lumière, Actes Sud, malgré quand même 2-3 coquilles qui m'ont un petit peu gêné. Ça a manqué, je pense, d'une relecture à certains moments. Une photo, par exemple, qui est mal légendée, ou un paragraphe entier qu'on retrouve au début du livre et à la fin du livre pour évoquer sa famille, et qui était juste un copier-coller. Donc ça manque d'une petite relecture, je pense, mais franchement, ça gâche pas la lecture.
Merci.
Je vous en prie. Et puis, il est malheureusement temps de se quitter. On n'a pas évoqué tous les livres qu'on a lus cette année. On passe notre temps à lire. Hein. C'est surtout toi qui n'as que ça à foutre. On se retrouve très bientôt après une petite pause estivale. Quand vous aurez lu tout ça, on pourra échanger ensemble si vous voulez. Vous nous direz si vous êtes d'accord ou pas avec ce qu'on a raconté. On se quitte avec justement un petit morceau extrait d'une bande originale de Sam Peckinpah.
Qui n'est pas du coup dans la bande originale, hein, c'est ça que tu me disais.
Il est dans le film, mais il n'est pas sur le disque. Ouais. C'est ça qui est terrible. Et alors que, en même temps...
Qui est sûrement une des meilleures bandes originales de l'histoire du cinéma, hein, clairement.
Voilà. C'est signé Bob Dylan, c'est pour Pat Garrett et Be The Kid. Vous pouvez retrouver bien évidemment cette émission en podcast sur le site de Canal B et puis le lien hein, sur tous les réseaux sociaux que le docteur utilise. Merci à vous de nous avoir écoutés. À très bientôt. Ciao. Merci Antonin.
Des bisous.
Company, Pat. Yeah, I'm alive, though. So am I.